Bien, je vous remercie tous d'être là dans la suite de ce feuilleton qui risque d'être interminable. Nous en étions à l'année 1955 et nous avions vu la formation du pacte de Bagdad et le raid israélien sur Gaza, qui ont eu lieu la même semaine, et qui donc, dans la perspective égyptienne, est vu comme un complot général reliant les impérialistes, les sionistes, etc. Les Égyptiens ont travaillé justement en mettant au point de nouvelles unités de commando qui prennent le nom de Fedayeen. Et nous avons vu que ce terme de fédayine était pratiquement l'équivalent français, du français franc-tireur et partisan, pour avoir un équivalent commode. Alors le 30 mars 1955, la Grande-Bretagne se joint à son tour au pacte de Bagdad. Et le 5 avril, au moment de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le pacte, Churchill démissionne et passe à la Chambre des Lords et Anthony Eden devient Premier ministre. Alors évidemment, pour les adversaires du pacte, l'entrée de la Grande-Bretagne dans le pacte est évidemment une nouvelle démonstration de la collusion entre l'Irak de Nouri Saïd et l'impérialisme. Et évidemment, les adversaires du pacte de Bagdad font campagne sur ce thème. Alors, nous avions vu le paradoxe des alliances politiques, c'est-à-dire que la constitution de ce genre de pacte se faisait en s'appuyant sur un partenaire local relativement fort. Mais en même temps, ça provoque chez les compétiteurs de ce partenaire local une dénonciation, puisqu'il y a un déséquilibre des forces, et qui renforce la tentation du neutralisme. Ainsi, le fait que le Pakistan entre dans le pacte de Bagdad pousse l'Inde de Nehru à s'affirmer encore plus comme champion du neutralisme dans la guerre froide. De même, l'entrée de l'Irak dans le pacte de Bagdad pousse l'Égypte à se définir encore plus comme un partisan du neutralisme. Or, nous sommes à l'horizon d'une ce qu'on appelle une espèce de mini-détente des années 54-55 dans la guerre froide qui accompagne, enfin qui suit la mort de Staline, et profitant de cette mini-détente, les neutralistes vont essayer de se poser comme nouvelle force internationale. Alors au départ, c'est ce qu'on appelle le groupe de Colombo, Pakistan, Inde, Indonésie, Birmanie, Ceylan, qui appelle à la réunion d'une conférence afro-asiatique. L'invitation est faite pour Bandung en Indonésie. Et l'invitation est faite au nom de l'anticolonialisme. Mais en même temps, cet anticolonialisme est un renversement simplement des termes du colonialisme et de l'impérialisme, c'est-à-dire qu'aucune puissance blanche n'est invitée à la conférence de Bandung, ce qui meurtrira en particulier l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui avaient l'impression d'avoir agi de façon active pour l'indépendance de l'Indonésie et qui se trouvent rejetées par l'invitation de Bandung. Donc les 29 pays que vous avez sur cette carte invités à Bandung représentent des pays récemment décolonisés ou qui ont conservé leur indépendance formelle à l'époque de la colonisation. C'était le cas de la Thaïlande, de la Chine et de l'Iran. L'Égypte est invitée évidemment à la conférence. Donc Nasser quitte le Caire le 8 avril pour se rendre d'abord au Pakistan avant, et en Inde avant d'aller à Bandung. Dans ce cadre-là, en Birmanie, toujours sur son trajet, Nasser rencontre Chou En Lai, le ministre des Affaires étrangères de la Chine populaire. Alors, il semblerait que ce fût une rencontre inopinée, mais on ne sait jamais. Alors, toujours est-il qu'après avoir fait le tour de la situation mondiale, selon la tradition nasserienne, le discours nassérien, Nasser aurait abordé la question directe de savoir si la Russie vendrait des armes à l'Égypte. Et après un temps de réflexion, Chou En Lai leur aurait répondu qu'il transmettrait la question aux intéressés, mais qu'à son avis, la réponse sera positive. Alors, ça, c'est la version officielle, le canonique. Certains auteurs ont émis des doutes, soupçonnant que des contacts antérieurs aient été pris entre l'Égypte et l'Union soviétique. Certains soupçonnent même que c'est en fait l'initiative soit venue de l'Union soviétique et non pas de l'Égypte. En tout cas, Bandung, c'est la grande fête de l'anti-impérialisme, avec une forte présence arabe, évidemment. Vous avez sur cette photo Benjamin el-Husseini, l'imam Bader, Nasser, ici Faisal d'Arabie Saoudite. C'est une rencontre entre amis, si j'ose dire. Ensuite, on profite du tourisme. Là, Nasser à Bandung, en tenue légère et militaire. Et en tout cas, à Bandung, Nasser apparaît brusquement comme un des grands leaders du tiers-monde en formation. On avait vu l'année dernière que le terme avait été créé 2 ans auparavant par un professeur au Collège de France, Alfred Sauvy. C'est un grand succès pour les thèses arabes, d'autant plus que le communiqué final de la conférence de Bandung, le 24 avril 1955, en ce qui concerne le Moyen-Orient, dit « Considérant la tension existante au Moyen-Orient, tension qui est causée par la situation en Palestine, et considérant le danger que cette tension constitue pour la paix mondiale, la conférence asiatique et africaine déclare appuyer les droits du peuple arabe de Palestine et demande l'application des résolutions des Nations Unies sur la Palestine et la réalisation d'une solution pacifique du problème palestinien. » Autrement dit, les thèses arabes sur le conflit ont été adoptées par la conférence de Bandung. Pour le reste, ce qu'on appelle les 5 principes de Bandung, souveraineté territoriale, non-agression, non-ingérence dans les affaires intérieures, égalité de toutes les nations et coexistence pacifique, sont des idées classiques qui sont en fait tout à fait proches de ce qu'on appelle les idées wilsoniennes qui sont censées inspirer la diplomatie américaine. Alors, en même temps, quand elle est neutraliste, on se place dans une tradition qui est relativement ouverte. Alors, les Américains, évidemment, avaient sondé le régime nassérien pour l'exécution du plan Alpha, mais on n'avait pas encore poussé plus loin parce qu'on attendait le retour de Nasser de sa tournée asiatique. Et en fait, à son retour, Nasser s'attache à éviter les contacts avec les émissaires américains pendant un certain temps. En fait, il attend le résultat des démarches faites auprès des soviétiques. Et c'est le 19 mai que l'ambassadeur soviétique au Caire lui fait passer le message que Moscou est d'accord pour les livraisons d'armes. Et immédiatement, on commence à travailler aux choses sérieuses, c'est-à-dire à discuter des quantités et des financement. En Israël, on a toujours l'opposition entre activistes et modérés. Charette obtient un rejet d'un projet de Ben-Gourion d'occuper unilatéralement la bande de Gaza. Alors l'Égypte, elle cherche à gagner du temps sur ce plan en acceptant les propositions du général Burns qui commande l'ONUST, donc les observateurs de l'ONU. Car bon, il s'agit toujours de se présenter comme en ayant le bon rôle et amener l'adversaire à la faute. Alors, on discute de patrouilles conjointes, d'établissement de lignes barbelées, etc. Et ce sont les Égyptiens qui sont poussés à la faute, puisqu'ils refusent, les Israéliens qui sont poussés à la faute, puisqu'ils refusent le projet égyptien de patrouilles conjointes, disant que si les patrouilles étaient conjointes le long de la ligne d'armistice, les infiltrés seraient l'heure de passage des patrouilles, donc ils passeraient entre deux patrouilles, et que d'autre part, la présence de soldats égyptiens sur le sol israélien serait automatiquement une violation de la souveraineté israélienne. Alors, tout le monde est extrêmement nerveux dans une situation où, je vous le rappelle, la ligne d'armistice n'est pas délimitée sur le terrain. Donc, il suffit qu'une patrouille israélienne le 17 mai entre, semble-t-il, par erreur dans le territoire de la bande de Gaza pour être interceptée par les Égyptiens. Elle s'en sort en tuant un soldat égyptien en en blessant d'autres. Immédiatement, selon la règle que Nasser s'est fixée, répondre à l'agression par l'agression, les Égyptiens envoient un commando de Fedayin de l'autre côté de la ligne qui tue 3 soldats israéliens. Les Israéliens répliquent par un raid qui ne fait que des dégâts matériels. Fin du petit round. 10 jours après, le 30 mai, c'est une patrouille israélienne qui est prise sur le feu de position égyptienne, ce qui généralise le feu sur une certaine durée et sur une certaine longueur. Là encore, on n'a pas besoin de préméditation. Les soldats égyptiens sont dans un état d'extrême tension et d'extrême nervosité. Dès qu'ils voient un soldat israélien, même s'il est de l'autre côté de la ligne, ils pensent que c'est une attaque israélienne et tirent d'abord avant de réfléchir. Alors Nasser, toujours habilement, propose un retrait des forces armées des deux camps sur une distance de 500 à 1000 mètres par rapport à la ligne d'armistice, ce que les Israéliens refusent. Mais ils proposent la réunion de la commission d'armistice au plus haut niveau pour régler les questions de sécurité. Les Égyptiens acceptent, ce sont les entretiens du kilomètre 95 qui commencent le 28 juin 1955. Qui vont durer tout l'été 1955 entre militaires israéliens et égyptiens, ainsi qu'évidemment le personnel des observateurs de l'ONU. Alors, on se perd dans les détails techniques, parce qu'en réalité, ni les uns ni les autres ne veulent conclure. Et donc, toujours de bonnes raisons techniques pour refuser de donner des réponses positives. Mais ça permet de passer un été relativement calme. Le 26 juillet ont eu lieu les élections israéliennes dans lesquelles Ben-Gourion et Charette ont marqué leur intention d'ouvrir le golfe d'Aqaba à la navigation, quels que soient les moyens utilisés. Le MAPAI, le parti donc travailliste majoritaire, enfin l'un des 3 partis ouvriers, perd 5 sièges, mais reste dominant. Le Herout, de la droite de Begin, en gagne 7, donc progression relative de la droite, mais c'est Ben-Gourion qui est chargé de former le nouveau gouvernement israélien de coalition. Et il échoue à réunir une vaste coalition d'unité nationale. Et donc, il forme ce qu'on appelle dans ces cas-là une petite coalition qui est réunie autour du parti Mapai, les deux autres partis dits ouvriers, c'est-à-dire le MAPAM, parti marxisant, et une dissidence du MAPAM, parce qu'il y a des journées des dissidents, ça arrive toujours dans les partis politiques, qui est l'unité des travailleurs, Ardout Avodat, qui est dirigé par Egal Alon, un des activistes, mais qui est en fait beaucoup plus dur que le Mapai en ce qui concerne les relations avec les pays arabes. Plus un parti centriste, un parti religieux, donc c'est la petite coalition. Maintenant que Nasser a le feu vert, enfin, sait que les soviétiques sont prêts à livrer l'armement, il se tourne vers les Américains, un bon dialecticien. Il rappelle que ça fait 3 ans qu'il demande aux États-Unis des armements. Et il laisse clairement entendre que si les Américains ne lui en fournissent pas, il se tournera vers l'Union soviétique. Et donc, après avoir boudé pendant plusieurs semaines les Américains, Nasser, au contraire, commence à les harceler sur la question de l'armement. Son ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Fawzi, je ne l'ai pas non plus là, excusez-moi, j'ai fait des erreurs dans la transcription. Fawzi se rend aux États-Unis et rencontre Foster Dulles à l'occasion évidemment d'une cérémonie des Nations Unies, c'est le 10e anniversaire de la charte. Et on parle concrètement des conditions égyptiennes à une paix israélo-arabe. La position de l'Égypte, ce serait substantielle compensation pour les réfugiés, cession de la plus grande partie du Negev, éventuellement à la Jordanie et non pas à l'Égypte. Donc il n'y aurait pas de problème de golfe d'Aqaba puisque l'Israël ne serait plus sur le golfe d'Aqaba. Donc, ayant montré que l'on est prêt à discuter de la paix israélo-arabe, l'Égypte peut maintenant adresser directement sa liste de commandes militaires aux États-Unis. Eisenhower, en bon militaire, l'examine, la trouve qu'elle est un peu chère, mais pas déraisonnable du point de vue purement militaire. Et Washington donne un accord partiel à cette demande égyptienne. Reste que les Égyptiens n'ont pas l'argent pour le payer. Plus exactement, ils n'ont pas les devises pour le payer. Ils sont prêts à payer en livres égyptiennes non convertibles, mais ça n'intéresse pas les Américains. Alors, on fait discrètement savoir que eux, les Soviétiques, ils acceptent d'être payés en nature, c'est-à-dire en coton. Alors, il fait donc les enchères d'un côté et de l'autre. Alors, tout ça préoccupe les Anglo-Saxons, qui décident d'organiser des consultations. Alors, on va profiter de la conférence de Genève de juillet 1955, c'est la conférence à un sommet à 4 avec l'Union soviétique, donc 4 plus 1, une conférence de Genève, non, 3 plus 1, oui. En parallèle, il y a des discussions entre Dulles et Macmillan, qui est à l'époque secrétaire au Foreign Office, et entre Eisenhower et Eden. Alors, on décide de modifier la stratégie du plan Alpha. On lancera Alpha publiquement par une déclaration à la presse et non pas par le biais de conversations secrètes avec les intéressés. Reste à fixer la date de la déclaration du projet anglo-américain. Les Américains, par ailleurs, acceptent d'entrer dans le pacte de Bagdad, mais après la paix israélo-arabe. Donc, ensuite, la bureaucratie continue de fonctionner, c'est-à-dire que le contenu d'Alpha est diffusé aux ambassades américaines au Moyen-Orient pour études, donc le temps que la formation revienne à Washington. On est à peu près à la mi-août. On calcule qu'il faudrait quand même prévenir les Français à un moment ou un autre. Donc, on décide qu'il faudra les prévenir environ 15 jours avant la déclaration. Et on fixe la date de la déclaration au 28 septembre. Alors, dans l'intervalle, on sonde les Égyptiens qui restent sur leur position précédente, c'est-à-dire compensation pour les réfugiés et cession du Negev aux Arabes pour établir la continuité territoriale du monde arabe. Sur l'autre versant d'Alpha, c'est-à-dire les eaux du Jourdain, Johnston essuie un revers sérieux puisque la Ligue des États arabes prend le dossier en charge et non plus chaque État individuellement, c'est-à-dire qu'on n'en reste plus au niveau théoriquement technique des conversations sur les eaux du Jourdain des mois précédents, on monte sur un échelon politique évidemment beaucoup plus sensible. Alors, devant cet accroissement des problèmes, Foster Deleuze décide d'avancer la divulgation d'Alpha au 26 août. Donc, échange de nouveau de messages entre Londres et Washington. Et puis, au dernier moment, puisque le temps presse, on prévient les Français. Donc, c'est Foster Deleuze qui fait la déclaration le 26 août 1955. Il ne mentionne évidemment pas l'existence d'un plan, mais donne des lignes directrices à suivre si on voulait faire une paix au Proche-Orient. Alors, il faut liquider le sort des réfugiés palestiniens en les réinstallant dans des conditions les plus décentes possibles avec de substantielles compensations et qu'ils puissent retrouver le travail de leurs mains. De façon assez intéressante, ils restent tous à l'idée que les réfugiés palestiniens sont des paysans et qu'on ne peut que les réinstaller sur des terres. Hein? Heureusement, il va avoir des terres à cultiver puisque le plan Johnston permettra de mettre en culture irriguée de nouvelles terres, donc on pourrait y installer les Palestiniens. Ce qui est évidemment une erreur politique puisque Johnston avait toujours été défini comme un projet technique sans aucune relation avec la question palestinienne. Tandis que maintenant, on dit, mais c'est pour les réfugiés palestiniens. C'est-à-dire qu'on dit l'inverse de ce qu'on avait dit quelques mois auparavant. Le second problème est la peur réciproque des acteurs régionaux. Et donc, une fois la situation territoriale fixée, mais on ne dit pas comment elle sera fixée, on envisage la mise en place d'un système de garantie territoriale donné par les États-Unis, leurs alliés et éventuellement l'ONU, c'est-à-dire une sécurité collective de la région sous garantie extérieure. Et il est simplement marqué pour les frontières que les lignes d'armistice ne sont juridiquement pas des frontières et que donc il faudra définir des frontières permanentes, mais sans dire comment on les définira. Le jeu est, en théorie, que tous ont plus intérêt à faire la paix qu'à faire la guerre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de perdants, il n'y aurait que des gagnants. Ça, c'est la vision tout à fait théorique. Alors, évidemment, ce n'est pas comme ça que les propositions de Foster Dulles sont reçues dans la région. Sur le plan diplomatique, les États se montrent très intéressés, ne font pas de commentaires particuliers, mais leur presse se déchaîne. En Israël, on s'inquiète du fait que Foster Dulles n'ait pas mentionné la déclaration tripartite, donc ne garantit pas les lignes d'armistice. Quant au pays arabe, c'est l'idée même de la reconnaissance de l'État d'Israël qui soulève des protestations. Et évidemment, on dénonce aussi les propositions Johnston, puisque Foster Dulles a bien dit qu'elles étaient reliées à la question des réfugiés palestiniennes. Alors évidemment, la question du calendrier est mauvaise, c'est-à-dire quand Foster Dulles s'est exprimé le 26 août, une nouvelle fois la région est au bord de la tension, de l'explosion, etc. Ça fait partie de la rhétorique habituelle de tous les commentateurs depuis un demi-siècle sur le Moyen-Orient. Ça continue aujourd'hui, je vous rassure. C'est le 22 août 55 que de nouvelles violences ont éclaté dans le secteur de Gaza. C'est le jeu habituel, une patrouille israélienne trop près de la ligne de démarcation, les Égyptiens tirent, aucune préméditation, semble-t-il, des deux côtés, simplement la nervosité des uns et des autres le long de la ligne. Les Égyptiens mettent fin pour parler du kilomètre 95 et surtout lancent une opération de représailles en envoyant 60 de commandos palestiniens dans la nuit du 25 au 26 août, c'est-à-dire la veille de la déclaration de Foster Dulles, en territoire israélien. Les commandos pénètrent très profondément à l'intérieur du territoire israélien et s'en prennent aux populations civiles. Environ 12 à 17 Israéliens civils et militaires sont tués jusqu'au premier jour de septembre par les commandos de Fedayin. La plupart d'entre eux réussissent à rentrer dans la bande de Gaza, même si certains se font intercepter. Et la presse égyptienne vante leurs exploits en en donnant des comptes rendus extravagants, c'est-à-dire en multipliant environ par 20 les pertes réelles des Israéliens. Dayan, en représailles, a immédiatement donné l'ordre à l'armée israélienne de tirer à vue sur tous paysans et bergers arabes à proximité de la ligne d'armistice. Le 28, le gouvernement israélien a donné le feu vert pour les raids de représailles. La principale attaque a lieu dans le secteur de Khan Younis, dans la bande de Gaza, faisant 72 morts chez les Palestiniens et Égyptiens de la station de police de Khan Younis. Et Ben Gurion fait savoir, évidemment, que si la violence continue, c'est la bande de Gaza dans son intégralité qui sera occupée par l'armée israélienne. Alors les observateurs se précipitent évidemment pour essayer de calmer le jeu, mais pendant leurs opérations, les Israéliens ont tout simplement arrêté et expulsé les observateurs de l'ONU comme des gêneurs. Alors évidemment, on renvoie toute l'affaire au Conseil de sécurité, d'où résolution 108 du Conseil de sécurité le 8 septembre 1955, qui déplore l'explosion de violence, demande une séparation claire entre les deux parties et ne condamne ni les uns ni les autres, étant donné que les Israéliens et Égyptiens sont aussi responsables de la violence, l'un par les Fedayin et l'autre par le Haïd. Ensuite, la violence se tourne vers la bande démilitarisée de la Hoja, qui fait partie de ces cauchemars laissés par la convention d'armistice. Comme vous voyez sur la carte, la bande démilitarisée est à la fois en territoire égyptien et en ex-territoire palestinien, c'est-à-dire donc en territoire revendiqué par Israël. Donc évidemment, comme dans le cas de la bande démilitarisée israélo-syrienne, les Égyptiens ne reconnaissent pas ce territoire comme un territoire israélien, mais comme un territoire arabe palestinien. Alors l'affaire de 55, c'est que, comme vous le voyez, la frontière internationale traverse la bande démilitarisée. Et les Égyptiens ont demandé, les Israéliens ont demandé qu'on fasse le bornage de la frontière internationale. Les Égyptiens avaient d'abord donné leur accord, puis l'avaient retiré. Donc le bornage est fait unilatéralement par les Israéliens. Et le 13 septembre, ils trouvent que plusieurs bornes ont été détruites. Et il réplique en envahissant la totalité du secteur ex-palestinien de la bande d'Aranja, c'est-à-dire que l'armée israélienne occupe la zone dite démilitarisée, et expulse le personnel égyptien qui se trouve à Al-Aoja. Même, je vous rappelle que Al-Aoja était censé être le quartier général où siégeait la commission d'armistice israélo-égyptienne. Alors, Burns intervient et négocie le retrait de l'armée israélienne, mais cette armée israélienne est remplacée par des policiers israéliens qui possèdent des armes lourdes. C'est-à-dire, c'est largement de la fiction. En ce qui concerne Alpha, Johnston, qui a entrepris sa nouvelle tournée, se trouve maintenant devant des interlocuteurs arabes beaucoup plus difficiles à persuader, à cause justement de la déclaration de Foster Dulles. Le 19 septembre, les services américains commencent à avoir des informations concordantes sur la prochaine conclusion d'un marché d'armes entre l'Égypte et l'Union soviétique. Dulles en parle à Molotov, qui est à l'époque encore ministre soviétique des Affaires étrangères. Vous savez, celui qui a fait le cocktail pour les plus jeunes. Molotov dit « Oh, ce n'est qu'une simple transaction commerciale. » Ce qui ne fait qu'inquiéter un peu plus les Américains. Alors, les Américains se précipitent au Caire. On envoie successivement Kermit Roosevelt, au nom de la CIA, puis George Allen, secrétaire d'État adjoint au Caire, pour dissuader Nasser de conclure. Alors, l'épisode est confus parce qu'on a plusieurs versions, mais toujours est-il que Nasser préfère prendre les devants plutôt que de subir les assauts répétés des émissaires américain, et il profite d'une vague occasion, le 27 septembre 55, il inaugure une exposition pour faire un discours annonçant publiquement le contrat d'armes avec l'Union soviétique, présenté en fait comme un contrat d'armes avec la Tchécoslovaquie, parce que comme on est en période de détente, passé par un satellite de l'Union soviétique, ça calme un peu le jeu. Puis d'autre part, il y a un certain humour pervers du côté du Bloc de l'Est, puisque c'était la Tchécoslovaquie qui, en 48 et 49, avait armé l'armée israélienne. Donc, maintenant, c'est toujours la même, entre guillemets, Tchécoslovaquie qui livre. Donc, sur le plan de ce qui s'intéresse à la linguistique arabe, de ce fait, pendant un certain temps, la Kalachnikov s'appellera en argot arabe une tchéquillée, avant d'appeler une roussillée, puisque les premières Kalachnikov dans le monde arabe sont venues via la Tchécoslovaquie. Alors, le contrat est d'ampleur considérable. Sa valeur nominale est de 86 millions de dollars de l'époque, ce qui veut dire quelque chose d'important, mais c'est une valeur nominale parce qu'on considère que les Soviétiques livrent à prix beaucoup plus bas. Enfin, donc, en réalité, la valeur réelle serait de l'ordre de 200 millions de dollars. Le contrat met fin au contrôle tripartite occidental sur l'armement de la région et fait d'un seul coup de l'Union soviétique un acteur majeur dans les affaires du Moyen-Orient, donc introduit directement la guerre froide dans cette région. Donc, à partir de cette date, nous aurons une compénétration de conflits israélo-arabes d'un côté et de la guerre froide de l'autre, ce qui va en rendre le contenu encore plus inextricable. Alors, il est certain que c'est la politique conduisant au pacte de Bagdad qui a poussé l'Égypte à se rapprocher à l'Union soviétique, l'Union soviétique étant elle-même motivée pour la même raison, c'est-à-dire passer derrière le pacte de Bagdad, d'autant plus que le 23 septembre, le Pakistan rejoint le pacte de Bagdad. Donc, d'un côté de l'Égée, la mer Égée au Baloutchistan, la défense occidentale est assurée, et maintenant la jonction est faite par le pacte de Bagdad entre l'OTAN et l'OTAZ, Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, donc l'encerclement total de l'Union soviétique est réalisé. Mais d'autre part, la politique des pactes a pour conséquence de faire définitivement du tiers-monde l'enjeu de la guerre froide. Les historiens d'aujourd'hui qui travaillent sur l'histoire de la guerre froide dans sa longue durée, c'est-à-dire 1945-90, l'analyse évidemment classiquement sur une guerre froide qui se situe à deux régions du monde, l'Europe d'un côté et le tiers-monde de l'autre, mais il montre comment très tôt le rideau de fer a gelé les positions en Europe, avec l'abcès de Berlin, donc les seules crises européennes seront les crises périodiques de Berlin, et que donc en réalité la guerre froide est un conflit sur le contrôle du tiers-monde entre les deux blocs, ce qui nous permet de mieux saisir évidemment l'enjeu israélo-arabe à l'intérieur de la guerre froide. Et en même temps, c'est Bandung qui a montré l'émergence politique de ce tiers-monde. Alors, l'interprétation des événements de 1955 a posé d'abord des controverses chez les contemporains et puis ensuite chez les historiens. En gros, il y a deux thèses. La première ferait d'un Nasser d'abord favorable à une négociation à Israël, un Nasser donc forcé à entrer dans un processus d'affrontement déclenché par le raid israélien sur Gaza et ensuite forcé de se tourner vers les Soviétiques, faute de trouver un partenaire occidental prêt à lui fournir sans condition des armements. La seconde thèse, au contraire, fait du maître de l'Égypte un expert en duplicité, toujours prêt à fournir aux Occidentaux des déclarations apaisantes et constructives, alors qu'en réalité, il n'a cherché qu'à manipuler les Américains contre les Britanniques et à vouloir établir son hégémonie régionale au détriment des alliés de l'Occident. Bon, je crois que la solution est plus simple, que Nasser est un bon stratège politique et qu'il a surtout cherché dans cette période à s'assurer le maintien du plus grand nombre d'options politiques ouvertes. Donc, son jeu d'aller-retour entre les deux blocs était le moyen de lui maintenir le maximum d'ouverture. Alors, néanmoins, reste la question de la finalité de la politique suivie. Tout le monde s'accorde que la priorité est bien au jeu inter-arabe, dans la continuité de la politique de la monarchie du roi Farouk, c'est-à-dire établir une hégémonie régionale égyptienne fondée sur l'alliance avec l'Arabie saoudite et l'opposition frontale avec les Hachémites, la Syrie étant l'enjeu de ce conflit inter-arabe. Et au départ, Nasser a, semble-t-il, moins de cartes en main que Farouk en avait à l'époque, dans la mesure où il est apparu au début de son gouvernement comme étant un dictateur militaire proche des Occidentaux, sur le modèle du Syrien Chichakli, et l'élimination en 54-55 des frères musulmans l'a rendu encore moins populaire, puisque les islamistes comme les progressistes ont accusé son régime d'être liberticide, ennemi de des libertés publiques, de la dictature militaire, agent de la CIA, etc. Et c'est en profitant de l'affaire du pacte de Bagdad que Nasser a disqualifié ses adversaires en les traitant d'agents de l'impérialisme, de complices du sionisme, etc. Et donc, c'est en se posant en héros de l'indépendance arabe qu'il a remporté la première manche. Mais ça implique pour lui que sa version du nationalisme arabe devienne de plus en plus clairement une version anti-impérialiste et progressiste. Et cette mutation de la politique étrangère nassérienne s'accompagne de la mutation de son discours en Égypte même. Alors que Nasser, au départ, c'était un homme de l'ombre, un comploteur, quelqu'un que les Égyptiens ne connaissaient pas. C'était celui qui avait organisé le coup d'État, mais que personne ne connaissait avant. Et dans les premiers mois du régime, on savait que c'était, entre guillemets, l'homme fort, mais ce n'était pas lui qu'on voyait. À partir de 54-55, il y a toute la mutation psychologique où Nasser se révèle être un extraordinaire tribun populaire, établissant un contact direct entre lui et les masses populaires, c'est-à-dire en élaborant ce qu'on peut appeler le modèle fusionnel du discours politique arabe. Et se donnant à la fois en Égypte d'abord, et puis ensuite dans le reste du monde arabe, cette capacité d'influencer sur les masses, qui n'est plus seulement le rôle du comploteur qu'il était auparavant. Et on voit très bien dans la constitution de son arme politique redoutable qu'est la radio du Caire, la création de la radio qu'on appelle la voix des Arabes, Saout al-Arab, qui devient le principal vecteur de la politique égyptienne, puisque dedans, en agonie d'injures, à peu près tous les adversaires possibles de l'Égypte nassérienne. D'où d'ailleurs le dialogue du sourd avec les modérés, entre guillemets, pour modérés arabes, et surtout avec les occidentaux, parce que ces attaques de la propagande venue d'Égypte exaspèrent les adversaires de Nasser, enfin les occidentaux, les israéliens et les arabes pro-occidentaux. Donc, on fait savoir à Nasser que ces attaques sont insupportables, et Nasser n'y voit là que des réactions exagérées qui deviennent des agressions non méritées, qui le poussent dans une nouvelle radicalisation verbale, et ainsi de suite. Et par ailleurs, son rapprochement amorcé avec l'Union soviétique s'accompagne d'une méthode typiquement nassérienne, c'est-à-dire qu'à chaque étape où on se rapproche de l'Union soviétique, on envoie une nouvelle fournée de communistes égyptiens en prison pour bien montrer qu'on est indépendant et qu'on ne se laissera pas manœuvrer de l'intérieur. Cela dit, reste justement pour l'Égypte un problème que l'armée égyptienne n'arrivera pas à résoudre jusqu'en 1967. L'armée égyptienne avait été encadrée jusqu'au début des années 40, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et un peu au-delà, par des instructeurs britanniques. Et ça avait laissé un extrêmement mauvais souvenir aux militaires égyptiens. Et il ne voulait pas de présence militaire étrangère sur le sol égyptien. Et en conséquence, quand on avait discuté les premières livraisons d'armes avec les Américains, on avait refusé une mission militaire américaine en Égypte, parce qu'on disait, on vient de faire partir les Britanniques, ce n'est pas pour faire venir les Américains. Mais maintenant que les Soviétiques, enfin, les Tchèques, livrent des armes, les Égyptiens vont aussi refuser la présence d'instructeurs militaires venus du bloc de l'Est sur leur sol pour ne pas permettre justement la même accusation que les Soviétiques remplacent les Britanniques. Alors certes, on va envoyer un certain nombre de militaires égyptiens se former dans le bloc de l'Est. Mais néanmoins, vous aurez un problème permanent de formation du personnel militaire égyptien, parce que ce personnel militaire égyptien qui a été formé au matériel de guerre britannique doit absorber un matériel de guerre soviétique qui est d'une conception totalement différente, et il se met dans les plus mauvaises conditions possibles pour absorber la nouvelle culture militaire, les maniements d'armes. C'est-à-dire qu'il y a un déficit permanent dans la formation de l'armée égyptienne à ce matériel moderne. Alors, par ailleurs, comme l'armée est le pilier du pouvoir en Égypte, vous aurez une hémorragie permanente des cadres militaires qui sont envoyés, encadrés, d'abord l'administration de la République arabe d'Égypte, et puis à fur et à mesure que le secteur socialiste de l'économie progressant, les militaires iront encadrer les nouvelles entreprises industrielles créées par le régime des officiers libres. Et là aussi, vous aurez un déficit des cadres dans l'armée égyptienne. Bon, en Syrie, c'est la même chose, mais c'était à chaque alternance politique par coup d'État qu'on envoyait des centaines d'officiers à la retraite en Syrie. C'est-à-dire que les armées arabes vont connaître dans cette période une hémorragie permanente des cadres qui, évidemment, sera un facteur d'affaiblissement permanent de ces armées. Et ceci pour des raisons strictement politiques. En Jordanie aussi, ce sera le cas dans un autre contexte. Mais il y aura plusieurs épurations des officiers de l'armée jordanienne dans les années 50 et 1960. Autrement dit, les Égyptiens vont privilégier une approche quantitative du militaire et ne pas avoir suffisamment d'approche qualitative du point de vue de l'encadrement, de le maniement des armes modernes, etc. Alors, la question était de savoir si, avec cet armement moderne qui commence à arriver en Égypte, est-ce que Nasser avait l'intention de faire la guerre à Israël? Dans l'état de nos connaissances, d'abord, il a perpétuellement dit non, qu'il n'était pas intention de faire la guerre. Il a toujours répété aux Occidentaux que son but n'était pas de faire la guerre à Israël. Disons que dans l'état actuel de nos connaissances, et non cependant sur la connaissance que l'on peut avoir des plans de guerre de l'armée égyptienne, et on a une certaine connaissance puisque des dizaines d'officiers de l'armée égyptienne ont écrit leurs mémoires racontant leur carrière militaire, il semble bien que les plans de guerre de l'armée égyptienne soient tous strictement défensifs, et qu'il n'y a jamais eu dans l'armée égyptienne jusqu'en 1967 de plan de guerre offensif contre Israël. Mais dès 1949, la hantise de Ben-Gourion, on le voit dans son journal, était de voir émerger dans le monde arabe ce qu'il appelait un Mustafa Kemal, c'est-à-dire un homme fort, modernisateur, rassemblant les énergies nationales, tel que l'avait été Mustafa Kemal en Turquie, et qu'évidemment, Ben-Gurion avait connu cette période de l'histoire du Moyen-Orient, et donc c'était son obsession. Et dans la pensée des responsables israéliens de cette génération, les Arabes ne peuvent que faire la guerre à Israël. D'abord parce qu'ils ont des bonnes raisons pour la faire.